C'est finalement parce qu'on remarque que le système qui était justifié par le passé parce qu'il y avait un monopole technique, finalement aujourd'hui n'a plus besoin d'être. Avant, on n'aurait pas pu avoir des télés sans main étatique derrière. Aujourd'hui, on constate que c'est possible sans. Et donc, on part du principe que, comme pour la presse écrite, ça devrait être un financement volontaire et privé.
Vous qui êtes contre cet argument technique, je crois que vous n'y croyez pas trop.
Non, pas vraiment. Parce qu'en fait, justement, je trouve intéressant que vous ayez cité la presse écrite, parce que justement, la presse écrite, c'est pas du tout le cas. On le voit, elle est en crise. Il y a beaucoup de problèmes au niveau des financements, des questions qui se posent. Donc du coup, je pense pas que ce sera quelque chose de viable pour la télévision. De plus, la télévision, c'est beaucoup de frais fixes pour la production d'émissions, donc des frais très très élevés, qui dans des grands pays, bien sûr, comme la France ou l'Allemagne, sont tout à fait envisageables, parce qu'il y a beaucoup de gens qui subventionneraient cette télévision, mais dans la Suisse, où le bassin de population est quand même très restreint, ça risque d'être très difficile.
Madame Morand, effectivement, quand on regarde les télévisions régionales suisses, du genre La Télé, ou TV Versoix, ou Canal Alpha, on sent le manque de moyens, c'est plus de la radio filmée que de la télévision, et ça c'est aussi par manque de moyens peut-être.
On voit que c'est des petites chaînes qui ont beaucoup moins de moyens, qui se débrouillent, qui font quand même un boulot assez génial avec peu, et ça montre que c'est possible. Je pense au Liechtenstein, qui est un pays avec 38 000 habitants, qui a sa propre chaîne privée. Donc ça montre que c'est possible. Par exemple, Genève, c'est 500 000 d'habitants, le Valais, c'est 200 000. On a quand même un certain bassin de population. On voit qu'en Suisse, le pouvoir d'achat est quand même assez élevé. Ça montre que on a cette possibilité, finalement, de faire du local sans toujours nous forcer en disant on est obligé de tout mettre en commun, sinon ça marchera pas. Nous, on n'y croit pas, on pense que c'est possible. Certains qui soutiennent l'initiative ont proposé, par exemple, de faire une redevance cantonale, et surtout qui ne serait pas obligatoire, dans le sens que ce qui nous dérange vraiment, c'est qu'on vient nous dire, finalement, vous n'êtes pas capable de financer vous-même vos médias si on vous ne force pas. On fait énormément de choix en tant que citoyen suisse, en tant qu'habitant suisse, en tant que personne, on fait des choix, on choisit sa formation, on choisit ses vêtements, sa nourriture, etc. Je dis pas qu'il y a pas quelques ratés de temps en temps. Cependant, on voit que les gens sont globalement très responsables. Pourquoi est-ce qu'on pourrait pas faire pareil pour les médias?
C'est pas tout à fait juste comme raisonnement. Pour moi, les médias fournissent un service démocratique, donc va apporter de l'information. Donc c'est pas toujours, enfin c'est pas dans le domaine du divertissement ou des biens, disons, qui ne sont pas forcément nécessaires aux personnes. Ça c'est plus comme par exemple l'éducation. Pour moi, il est invraisemblable de libéraliser l'éducation. Donc pour moi, ça ne fonctionne pas. On ne peut pas libéraliser les médias parce que les gens, et moi la première, bien sûr, je consomme par exemple Netflix. Alors, je le dis pas, il y a pas de souci, mais c'est pas la même chose. C'est du divertissement, c'est pas de l'information. Puis pour avoir cette qualité de l'information, je pense que les gens ne seront pas forcément prêts à sortir autant d'argent, parce que ça va coûter cher pour la radio et la télévision. Enfin, particulièrement pour la télévision, ça va coûter cher. Et bien sûr, après, il y aura d'autres besoins de base qui vont devoir être satisfaits avant de pouvoir se permettre de le faire. Et vous avez parlé de pouvoir d'achat. Oui, on a un certain pouvoir d'achat, mais en même temps, les abonnements, ça va pas pouvoir, enfin, on va pas pouvoir faire varier le prix de l'abonnement en fonction du revenu des gens. Donc, au final, ce sera quand même un prix fixe qui devra quand même être abordable. Donc voilà, je vois pas comment on pourrait mettre ça en place de manière possible. Et puis aussi dans les différents cantons, une redevance cantonale, effectivement, ça, alors à Fribourg, je pense que ça posera pas de problème parce que nos finances vont bien, mais dans des cantons comme Neuchâtel peut-être ou autres, ça risque d'être beaucoup plus problématique aussi.
Madame Morand, cette idée qu'un service public dans les médias pour défendre la démocratie, est-ce que ça vous parle? Parce qu'on voit ces jours, justement, par exemple, les difficultés d'un service comme l'Agence télégraphique suisse. Ça pose quand même un problème de couverture du débat en Suisse. Est-ce qu'on risque pas d'arriver au même genre de problème en privatisant aussi la SSR?
La SSR est déjà privée, ce serait juste privatiser finalement la manière dont elle perçoit son revenu. Ce qu'il faudrait dire, c'est quand même que les gens, quand ils choisissent de s'abonner de manière volontaire, ils peuvent choisir un produit qui correspond beaucoup plus à leurs besoins. Par exemple, pas tout le monde a envie de payer pour le sport, ça fait déjà une sacrée réduction de la facture. Pourtant, là, on sait que c'est rentable parce que, par exemple, quelqu'un qui est vraiment fan de sport, il est souvent abonné à une autre chaîne pour pouvoir vraiment avoir toute l'offre qu'il veut. Là, on est dans un système où, finalement, si on veut quelque chose qui correspond vraiment à nos besoins, on est souvent obligé de prendre une sorte de double abonnement. Donc, ça coûte de toute façon très cher aujourd'hui. Après, ça permettra aux gens donc de prioriser C'est-à-dire qu'il y en a qui préféreront pas forcément prendre un abonnement à la télévision, à la radio, certes, mais il y a d'autres moyens de s'informer, parce que la presse écrite, comme je le disais tout à l'heure, la presse écrite, oui, elle a des difficultés parce qu'elle est en train de changer de modèle, mais je pense qu'il y a quelque chose qui est assez important que disait la rédactrice en chef du Matin, Ariane Dayer, mon plus grand concurrent, c'est la SSR.
Oui, donc pour ce que vous avez dit, donc bon, par rapport à la presse, elle essaye de trouver un nouveau modèle de financement. Mais ça, alors il y a de nombreuses études là-dessus. On ne trouve pas de business model justement qui permette de soutenir la presse. Et d'ailleurs, les pays où la presse a un plus grand taux de liberté, enfin plus porteuse de démocratie, je ne sais plus exactement le nom des indicateurs, faudrait que j'aille rechercher, sont les pays du Nord qui subventionnent la presse par l'État. Donc de ce côté-là, pour moi, on revient à la même chose. C'est pas réaliste de dire on va rajouter la radio et la télévision comme acteurs en fait de l'information sans subvention, parce que du coup, ben ça va prendre nouveau des parts de marché aussi à la presse. Ça va se cannibaliser et puis au final, on va avoir beaucoup moins de diversité aussi.
Madame Morand, l'argument selon lequel je paye pour ce que je consomme, est-ce qu'il n'est pas quelque part dangereux ? Parce qu'on pourrait vraiment l'appliquer à mille choses. Par exemple, j'ai pas d'enfant, pourquoi j'irais payer avec mes impôts les écoles ? J'ai pas de voiture, pourquoi j'irais payer avec les routes ? Vous voyez ce que je veux dire ?
Je comprends tout à fait. Ce qu'il faut dire, notre slogan, c'est plutôt de dire « je ne paye pas pour quelque chose que je ne consomme pas », qui est beaucoup plus important. Et après, notre idée, c'est pas de dire que ça s'applique à tout. En tant que libéral, on sait qu'il faut par exemple une certaine formation aux personnes, qui leur permet ensuite d'être indépendantes, d'être autonomes. Donc l'éducation à l'école, c'est quelque chose de très important pour nous, qui nous permet justement, c'est on nous aide au début et ensuite on nous lâche. Et là, ce qui est problématique, c'est que finalement, on nous permet à aucun moment d'être vraiment autonomes, parce que tout le long, on nous garde la main sur l'épaule en disant « Ouais, mais si je te dis pas comment t'informer, tu sauras jamais vraiment. Il faut qu'on contrôle. » Enfin, je trouve finalement un peu dommage, un peu élitiste de dire si on ne dit pas aux gens comment s'informer, ils le feront mal. On le fait pour tellement d'autres choses.
Alors, pour rebondir sur plusieurs choses, je trouve que justement, par rapport à cet argument de payer pour ce qu'on veut, et là, enfin, du coup, je me sens pas du tout élitiste, parce que personne. Là, je prends mon propre exemple, c'est que au début, ben, j'avais tendance à pas forcément être très intéressée par la politique il y a quelques années en arrière, et puis c'est au final, en lisant par exemple les journaux, en voyant des nouvelles différentes, je lisais que ce qui m'intéressait, et puis finalement, ben, après, quand on a un journal ou on a acheté un journal ou c'est, enfin, nos parents ont des journaux, c'est égal, on commence à lire et puis on se dit, ah ben, pourquoi je lirais pas ça, et puis ça, et puis ça, c'est ça en fait la manière de s'informer. Et un autre argument aussi, c'est de se dire que, enfin, j'avais discuté justement avec un journaliste qui m'expliquait que le journaliste donc va aussi avoir un travail de vérification de l'information, c'est pour ça qu'on s'informe. Donc on va vouloir payer justement, par exemple, pour avoir une vérification de l'information qui nous plaît sur un sujet, ben du coup, dans votre logique, vraiment qui nous intéresse, et ça a des coûts rien que pour vérifier une seule information pour une seule personne. Astronomique. Il avait dit il faut 500 francs à peu près pour la vérification d'une information. Alors que ces 500 francs investis dans une année dans un service un service privé ou public, hein, de presse ou de médias, ça va pouvoir permettre toute une panoplie d'informations différentes. Parce que du coup, ça va enchaîner d'autres sujets. Enfin, il y aura toute une dynamique qui va se former. Et là, ce qui risque d'arriver, c'est que souvent, on n'est pas forcément... c'est pas une question d'être élitiste ou non, c'est normal, on a des centres d'intérêt, on va vouloir s'informer sur des choses qui nous touchent, qui nous parlent, mais ça fait partie en fait, le fait de pouvoir avoir un abonnement qui propose toute une variété de sujets différents, même qui nous intéressent pas forcément, nous permet aussi de nous ouvrir sur le monde. C'est une des fonctions du journalisme, c'est aussi de représenter le monde dans son entier et puis de découvrir de nouvelles choses.
Madame Morand, quand on voit les jeunes, hein, souvent ils s'informent sur plein de canaux, par exemple sur YouTube, sur des chaînes, et des fois, c'est pas toujours très pertinent. Hein. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est très important d'avoir, alors que ce soit la SSR ou un autre, mais quand même quelque chose de public où on sait, voilà, c'est plus ou moins sérieux, vérifié, pour mettre peut-être une balise, une borne?
Je pense que déjà la presse écrite, les acteurs privés font un travail sérieux à ce sujet. Et ensuite, ça rejoint ce que je disais avant, tout passe finalement par l'éducation. Si de base on a une bonne éducation qui nous habitue à aller chercher les sources, c'est d'ailleurs prévu d'introduire ça petit à petit dans les écoles pour finalement habituer tout le monde dès le début à prendre ce réflexe. Je vois un article, je vais regarder les sources. Et c'est de dire, on a une bonne base et ensuite, on est autonome, on est responsable. Parce que finalement, si on est tout le temps infantilisé, comment voulez-vous qu'on devienne vraiment adulte?
Est-ce que ça infantilise?
Alors, à ce sujet-là, on se rejoint. Moi, je suis tout à fait d'accord, je trouve ça très bien. C'est une initiative que je trouve vraiment importante d'insérer ça à l'école de plus en plus jeune, d'aider les gens à former leur esprit critique, en fin de compte. Mais du coup, c'est pas encore le cas maintenant. Et là, la votation actuelle, elle va en fait couper tout ça avant qu'on ait ça. Et puis, il y a beaucoup de gens qui font des apprentissages, par exemple, puis qui n'ont pas forcément autant... Enfin, je vais pas dire du tout qu'ils ont pas d'esprit critique, parce que ça, c'est absolument pas vrai. Qu'ils se le forment autrement, mais pas forcément à l'école, parce que si je me souviens bien, en tout cas, personnellement, jusqu'à l'école secondaire, enfin, même à l'école secondaire, on a pas été formé à ça. Puis aussi, après, bon, il y a aussi d'autres choses. C'est que quand on est plus jeune, alors pas tout le monde, bien évidemment, mais on s'en fout, excusez-moi le terme, ça nous intéresse pas forcément. Moi, véritablement, c'est à l'université que j'ai appris vraiment à développer mon esprit critique et puis à m'intéresser à ce genre de choses. Et par exemple, mon compagnon qui est informaticien, qui a fait donc vraiment un apprentissage, il a développé son esprit critique d'autres manières avec son entourage. Mais c'est quand même quelque chose qui n'est pas aussi ancré qu'on le croit. Et puis du coup, moi, je trouverais ça dommage de supprimer maintenant le service public, maintenant. Alors que c'est pas encore ancré ce que vous proposez.
Il est sorti un sondage qui montre que l'initiative de Nobilac devrait être refusée. Par contre, il y a un chiffre intéressant qui montre que chez les jeunes, les 18-30 ans, c'est accepté. Alors, pas de beaucoup, c'est 51%, mais c'est accepté quand même. Est-ce que vous pensez pas que vous avez Madame Grandjean, un combat un peu d'arrière-garde, là, que, en fait, l'avenir va plutôt du côté de Madame Morin?
Effectivement, donc il y a beaucoup de jeunes par rapport au sondage qui a été fait qui voteraient pour l'initiative Nobilag. Et du coup, à ça, je répondrais que, justement, dans mon entourage, ça a été un combat de discuter avec des gens de mon âge qui me disaient « Ouais, mais non, on veut pas. Enfin, moi, je regarde pas la télé, j'écoute pas la radio, j'ai autre chose à... Enfin, je m'informe autrement. » Et puis, quand on discute avec eux, ce qui est vraiment très intéressant, c'est qu'on voit comment ils s'informent. Sur leur natal, déjà, ils ont des applications comme l'application d'RTS Info. Ils reçoivent les notifications push. Puis moi, je leur ai dit, ça, c'est la télévision. Hein. Enfin, c'est pas la télévision au sens propre, mais c'est la SSR. Ça fait partie du service qu'elle fournit. Ils partagent des vidéos de nouveaux, ces petites vidéos informatives. Puis du coup, je dis, ça aussi, c'est la SSR, si jamais. Et puis, encore une fois, ça a quand même un certain coût de produire ces vidéos, parce qu'elles sont assez bien faites. Donc, il faut des logiciels, il faut pouvoir avoir la capacité de filmer dans certains cas de vidéos, etc. Du coup, tout ça, c'est aussi la SSR. Alors oui, c'est pas encore parfait. Il y a encore beaucoup de choses, je pense, à titre personnel, où la SSR peut s'améliorer. Mais elle fait un pas vers le futur, entre guillemets, vers l'avenir. Et puis, elle essaye d'introduire de plus en plus d'informations en ligne. Combien de jeunes je connais qui vont voter non, mais qui vont regarder Suisse Info ou RTS Info ou ce genre d'initiative. Donc, je pense aussi qu'il y a peut-être un manque d'informations au niveau des jeunes. Ils se rendent pas compte. C'est vraiment, ils ont souvent l'image de la télévision et de la radio. C'est pas que ça.
Pour conclure les deux, en peut-être deux, trois phrases, Madame Morin, pourquoi faut-il absolument voter pour cette initiative Nobilag?
Alors si on vous propose de voter oui le 4 mars, c'est parce qu'on pense que vous êtes apte à réfléchir par vous-même, à choisir vous-même vos médias, quels médias vous voulez financer, parce que après tout, vous avez le droit de vote. Vous décidez de la stratégie énergétique, qui est quand même un sujet assez complexe. D'autres sujets tout aussi complexes, par exemple le système des retraites. Finalement, vous décidez du futur de la Suisse. Et ce que l'on trouve bizarre, c'est qu'on vous confie des décisions aussi importantes, mais qu'après, on vienne vous infantiliser quand il s'agit de choisir vos médias, parce qu'il faut toujours... Parce que finalement, on serait capable de voter, mais on ne serait pas capable de s'informer.
aussi brièvement, pourquoi faut-il absolument voter non ?
Alors pour moi, il faut absolument voter non à l'initiative Nobilag, parce que justement, c'est quand même mettre en danger le paysage médiatique suisse. Et en fait, tout la profession au fond de journalisme porteuse de démocratie, et que du coup, les modèles en fait qui seraient proposés pour des médias privés ne sont absolument pas clairement établis, et que du coup, il n'y a pas de modèle en fait viable. On le voit avec la presse qui est justement en grande partie privatisée, enfin qui est privatisée. Il n'y a pas de business model viable pour ce genre de médias. A fortiori pour des médias comme la télévision, voire la radio, qui ont des frais fixes énormes.